これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ
でゲサワ。
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Philippe Brenin.
À la réalisation aujourd'hui, Véronique Villa. Tout le monde connaît Quasimodo, et avec lui, comme avec Socrate, la bonté d'un cœur qu'avère en la recouvrant la hideur d'un visage. Mais on connaît moins Gwynplaine, l'homme qui rit de Victor Hugo, dont le faciès hilar défigure la mélancolie. Pourtant, la grimace est aussi son visage. L'homme qui rit est un roman tellement triste qu'on en pleurerait presque à chaque page. Mais un roman si beau qu'à l'image du spectacle décrit par Hugo et intitulé « Chaos vaincu », il n'est pas exclu que d'un noir si profond jaillisse comme une promesse sans date, la certitude que la vie ne se corrige que dans l'écriture, voire la politique. Rire aux larmes ou bien pleurer d'un rire contraint, c'est l'alternative du jour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Gwynplaine. Qu'entendez-vous dans cette étrange et gutturale association de syllabes? Un érudit polyglotte vous dirait que « Gwyn » signifie « blanc » ou « sacré » en celte, et que dans un anglais un peu suranné, « plain » peut vouloir dire « lait ». Que Gwyn est également un dieu des légendes galloises qui, comme Saturne, aurait dévoré ses enfants. Gwynplaine, ainsi nommé par ses ravisseurs interlopes, les Comprachicos, est l'enfant mutilé destiné à devenir invariablement l'homme qui rit, à être sans cesse comique au dehors et tragique au dedans. C'est ainsi qu'en quelques lettres, Victor Hugo fait entrer tout un monde, concilie la vénérable blancheur à la monstruosité, annonce un roman énorme.
Comme c'est bien écrit, Paola. Comme j'adhère en profondeur à ce que vous dites, j'y adhère d'autant plus que j'y avais même pas pensé. Et puisque vous parlez de blancheur, tiens, on va changer de commencement.
La mer comme la terre était blanche, l'une de neige, l'autre d'écume. Rien de mélancolique comme le jour que faisait cette double blancheur. Certains éclairages de la nuit ont des duretés très nettes. La mer était de l'acier, les falaises étaient de l'ébène. De la hauteur où était l'enfant, la baie de Portland apparaissait presque en carte géographique, blafarde dans son demi-cercle de collines. Il y avait du rêve dans ce paysage nocturne. Une rondeur pâle engagée dans un croissant obscur. La lune offre quelquefois cet aspect. D'un cap à l'autre, dans toute cette côte, on n'apercevait pas un seul scintillement indiquant un foyer allumé, une fenêtre éclairée, une maison vivante. Absence de lumière sur la terre comme au ciel. Pas une lampe en bas, pas un astre en haut. Les larges aplanissements des flots dans le golfe avaient çà et là des soulèvements subis. Le vent dérangeait et fronçait cette nappe. L'ourque était encore visible dans la baie, fuyant.
Dans mon chapeau, je parlais de romans énormes. Oui. Et en écoutant le texte, écoutez, j'ai pensé au roman de Melville, Moby Dick, qui est lui aussi un roman énorme.
Alors, on en avait parlé dans Le Gai Savoir. Le chapitre 42 de Moby Dick s'appelle La blancheur de la baleine. Je le redis à nos auditeurs. C'est un chapitre extraordinaire. C'est un chapitre qui, dans le récit de Moby Dick, se trouve à mi-chemin d'une narration objective et de considérations cétologiques bigarrées d'ailleurs elles-mêmes. Et puis il y a ce chapitre, le chapitre 42 sur la blancheur de la baleine, qui est le chapitre qui vaut à Camus de découvrir, qu'on ne pense bien que par image dans les carnets de Camus, le commentaire de Moby Dick et en particulier des passages qu'il prélève dans ce chapitre précède l'intuition qu'on ne pense bien que par image. Or le blanc est précisément ce qui abolit l'image, et c'est aussi la raison pour laquelle on est au sommet de la terreur. De la même façon, c'est aisé à comprendre, de la même façon que la différence entre la peur et l'angoisse, c'est que la peur, c'est une angoisse qui se donne l'alibi d'un objet. D'une certaine manière, la peur est un soulagement. Quand on a peur de quelque chose, on a, entre guillemets, moins peur que quand on a peur sans pouvoir identifier une cause à cela. Quand la peur se découvre à nous sous la forme d'un affect autonome. Or, la leçon de la blancheur, que ce soit dans Moby Dick ou bien dans L'homme qui rit, c'est que la blancheur dissipe tout motif objectif, toute crainte objective. C'est le monde entier qui devient la source de l'effroi. Plus encore, c'est le monde entier qui devient l'effroi lui-même. Et alors, dans L'Homme qui rit, puisque dans Moby Dick, Melville parle de la blancheur des chevaux de Lima, de la blancheur des baleines, de la blancheur d'une baleine, de la blancheur du requin, du fameux requin blanc. C'est toujours la blancheur de quelque chose qu'il évoque. Ici, c'est une blancheur uniformisante qui recouvre et qui rassemble le sol de la terre ferme et le sol beaucoup moins fiable de la mer qui va noyer les comprachicos, c'est-à-dire ceux qui ont défiguré l'enfant dont il faudra suivre le parcours et les pas hésitants dans la neige. La blancheur dont parle ici Hugo est une blancheur dont l'effroi qu'elle inspire est redoublé par le fait qu'elle assigne un enfant, Gwynplaine, le tout jeune Gwynplaine, on ne sait pas encore qu'il s'appelle comme ça, et ses tortionnaires, c'est-à-dire ceux qui lui ont fendu la bouche jusqu'aux oreilles en lui retroussant les gencives et en lui écarquillant les yeux et le front. Donc la blancheur met l'enfant et les tortionnaires sur le même régime, c'est-à-dire le régime de la mort dans la vie. Reste que l'écriture vient corriger cela en injectant notamment du noir, oui.
Peut-être y a-t-il un autre point commun avec le roman de Melville, qui est écrit à peu près 10 ans avant le roman de Victor Hugo, qui est la position de cet enfant, Gwynplaine, qui est entre la mer et la terre, et entre le ciel et la mer aussi, qui est dans la même position, on pourrait dire, que Pipe, quand il se retrouve au milieu, entre deux gouffres, le gouffre du ciel et le gouffre de la mer.
Oui, bien sûr, évidemment. Là encore, pour mémoire, le jeune Pipe, alors vous avez dit Pipe.
Oui, j'ai pensé à Pipe.
C'est pas Pipe, parce que c'est Pipe, P-I-P. Le jeune Pipe, c'est un petit noir, figurez-vous. C'est le petit noir du Pequod dans Moby Dick. C'est le musicien, il est sympa, il fait du tambourin, il est comme... voilà, c'est le bout en train de l'histoire, c'est celui qui ne sait pas nager, comme souvent d'ailleurs les marins à l'époque, et c'est celui qui fait que des conneries à bord et qu'on finit par jeter à l'eau et qu'on abandonne pendant 24 heures. Et qui, comme il ne sait pas nager, pour rester à la surface, il est obligé de pédaler avec les jambes, vous savez, comme font les enfants qui font le chien quand ils apprennent à nager. Et pédalant avec ses jambes, il découvre, se dévoile à lui, dit Melville, le grand pédalier de l'existence, puisque cet individu infime entre tous qui passe 24 heures au milieu de l'océan a l'infini sous lui, l'infini au-dessus de lui, et est lui-même une sorte d'infini inversé, d'infiniment petit, au regard de ces deux montagnes, une montagne de mer et une montagne de ciel. Alors, dans L'Homme qui rit, une expérience qui n'est pas rigoureusement la même, mais qui est elle-même une expérience pascalienne, hein, puisque c'est l'expérience des deux infinis, de l'infiniment vaste, enfin de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de ces deux infinis qui ne sont pas moins vastes l'un que l'autre. Cette expérience, le petit enfant, Gwynplaine, dont on ne sait pas encore qu'il s'appelle Gwynplaine, dont on ne sait pas encore qu'il est défiguré, qu'il est hideux pour l'éternité, en tout cas pour le temps de sa vie, cette espèce de Socrate dont la hideur recouvre l'extrême beauté, la beauté intérieure, la beauté de l'âme, Gwynplaine, qui est donc abandonné sur le rivage par les comprachicos, ceux qui achètent les enfants pour les défigurer puis pour les revendre, il est abandonné sur le rivage, marche péniblement dans la neige avec une obstination admirable, on en reparlera, et croise à un moment un gibet. Et voyant ce gibet, il se sent absolument infime sous l'œil mort du gibet lui-même. Tiens, Hugo en parle mieux que je ne pourrais le faire. On va écouter ce passage lu par Georges Clès. Écoutez.
C'était quelque chose comme un grand bras sortant de terre tout droit. À l'extrémité supérieure de ce bras, une sorte d'index soutenu en dessous par le pouce s'allongeait horizontalement. Ce bras sous pouce et cet index dessinait sur le ciel une équerre. Au point de jonction de cette espèce d'index et de cette espèce de pouce, il y avait un fil auquel pendait on ne sait quoi de noir et d'informe. Ce fil, remué par le vent, faisait le bruit d'une chaîne. C'était ce bruit que l'enfant avait entendu. Le fil était, vu de près, ce que son bruit annonçait, une chaîne. Chaîne marine aux anneaux à demi plein. Par cette mystérieuse loi d'amalgame qui, dans la nature entière, superpose les apparences aux réalités, Le lieu, l'heure, la brume, la mer tragique, les lointains tumultes visionnaires de l'horizon s'ajoutaient à cette silhouette et la faisaient énorme. La masse liée à la chaîne offrait la ressemblance d'une gaine. Elle était emmaillotée comme un enfant et longue comme un homme. Il y avait en haut une rondeur autour de laquelle l'extrémité de la chaîne s'enroulait. La gaine se déchiquetait à sa partie inférieure. Des décharnements sortaient par ses déchirures. Une brise faible agitait la chaîne, et ce qui pendait à la chaîne vacillait doucement. Cette masse passive obéissait aux mouvements diffus des étendues. Elle avait on ne sait quoi de panique. L'horreur qui disproportionne les objets lui ôtait presque la dimension en lui laissant le contour. C'était une condensation de noirceur ayant un aspect. Il y avait de la nuit dessus et de la nuit dedans. Cela était en proie au grandissement sépulcral. Les crépuscules, les levées de lune, les descentes de constellations derrière les falaises, les flottaisons de l'espace, les nuages, toute la rose des vents avaient fini par entrer dans la composition de ce néant visible. Cette espèce de bloc quelconque, suspendu dans le vent, participait de l'impersonnalité éparse au loin sur la mer et dans le ciel. Et les ténèbres achevaient cette chose qui avait été un homme. C'était ce qui n'est plus. Être un reste. Ceci échappe à la langue humaine. Ne plus exister et persister. Être dans le gouffre et au dehors. Reparaître au-dessus de la mort comme insubmersible. Il y a une quantité d'impossibles mêlés à de telles réalités. De là, l'indicible. Cet être, était-ce un être ? Ce témoin noir était un reste, et un reste terrible. Reste de quoi ? De la nature, d'abord. De la société, ensuite. Zéro et total.
Vous vous souvenez, Paola, du titre de la pensée sur le Paris de Pascal ?
Non.
Infini, rien. Zéro et total. Zéro et total. Néant et totalité. Ou totalité du néant. Amalgame, anastomose de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est pas seulement l'infiniment grand et l'infiniment petit qui laissent entendre une sorte de quantification possible, au fond. Bon, bien sûr, c'est l'infini, donc on peut pas tellement le quantifier. Hugo, ici, a le vocabulaire de la sortie de la quantité. À l'infiniment grand et l'infiniment petit, il substitue le zéro et le total. Or, le zéro, c'est un chiffre en deçà des chiffres. Et le total, c'est une somme qui est plus que la simple addition de ses parties. C'est un tout qui va plus loin que la seule addition de ses parties. Et c'est donc un enfant pris entre le néant absolu et la plénitude absolue. Et c'est cet individu qui lui-même est un être hideux de corps et dont l'âme est sublime, dont l'amour qu'il forme avec la petite fille qu'il récupérera dans la neige, Déa,
qui est aveugle.
Qui est aveugle, donc, qui voit, qui seul voit l'âme de ce monstre, et qui donc vit avec lui une histoire d'amour extraordinaire, dont l'amour qu'il forme donc avec Déa est un mélange de vermine et d'étoiles. Un ver de terre amoureux d'une étoile, c'est le modèle hugolien qu'on trouve dans Ruy Blas, qu'on trouve dans Notre-Dame de Paris, qu'on trouve dans Les Misérables, qu'on trouve dans L'Homme qui rit. C'est cet alliage extravagant de la pureté, et non pas de la souillure, mais de l'incarnation. De l'incarnation et d'un visage qui porte sur lui les stigmates ajoutés par l'homme. Mais il faut rester sur le gibet un instant, parce que c'est important, oui.
Oui, non, j'avais une question un peu simple, mais en quoi est-ce que cette rencontre entre le gibet et Gwynplaine va déterminer plus encore que la personnalité de Gwynplaine, mais son destin dans la suite du roman.
Alors d'abord, Gwynplaine lui-même l'évoquera plus tard en disant « J'ai rencontré la loi » quand il fera un discours à la Chambre des Lords, puisque dans la trame romanesque de L'Homme qui rit, on découvre qu'en réalité Gwynplaine est un enfant abandonné. Mais c'est le fils d'un lord et il est donc lui-même l'héritier légitime, c'est Lord Fairmain Clancharlie. Il est richissime, c'est l'héritier légitime d'une immense fortune et ce lord qui s'ignore, se trouvera à un moment du livre en situation de discourir devant les lords. Il leur dit « J'ai vu la loi !» J'ai vu la loi, sous la forme d'un gibet. Ici, alors là, pour le coup, dans le Hugo mélancolique, parce que c'est le Hugo de la fin de l'exil, hein, qui écrit L'homme qui rit, on est à la fin des années 60, et c'est le Hugo d'un exil dont il pense qu'il n'en finira pas, au fond, hein, qui écrit le... C'est pas seulement la fin de l'exil, c'est la fin qui s'ignore de l'exil. Et cette Hugo mélancolique dépose sa mélancolie sur le châtiment de la loi et s'oppose une fois de plus à la peine de mort. On retrouve ici les arabesques géniales et si incisives du dernier jour d'un condamné. Hugo excelle à décrire ce que la loi est capable de produire quand elle condamne à mort le criminel. Mais le spectre ou le gibet, ça va beaucoup plus loin que cela. Souvenez-vous, Paola, de l'impression faite à l'enfant par le spectre qu'il croise dans cet univers fantomatique et neigeux. C'était quelque chose comme un grand bras sortant de terre, tout droit. À l'extrémité supérieure de ce bras, une sorte d'index soutenu en dessous par le pouce s'allongeait horizontalement. Qu'est-ce que c'est ça, Paola? Ce dessin-là, un pouce et un index, qu'est-ce que ça fait? Ce sont des doigts qui soutiennent un stylo. C'est la main de l'écrivain. C'est une métaphore de l'écriture elle-même. C'est la littérature est en mouvement ici, elle renvoie à elle-même. C'est à Jean Morel, Jean et Sabine Morel d'ailleurs, pour être tout à fait juste, que je dois d'avoir compris ça en lisant ce livre. Et c'est vrai que c'est une perspective, une interprétation qui enrichit considérablement le livre. Le gibet, la potence, c'est pas seulement la description de ce dont la loi est capable quand en se prenant pour Dieu, elle décide de couper la tête d'un coupable qui pourrait être innocent. C'est pas seulement cela, c'est une métaphore de l'écriture elle-même, c'est-à-dire du sentiment que la vie ne se corrige que dans l'écriture. En amont d'ailleurs de ce que je dis ici, parce que je brûle les étapes, il y a l'idée que Gwynplaine, en voyant le gibet, avec ce visage décharné, avec ses yeux sans regard, avec cette bouche noire qui contient une sorte d'infini noirâtre, il y a l'idée que Gwynplaine, au fond, se regarde lui-même, comme dans un miroir. Mais il me semble que, au-delà des comparaisons objectives, des significations objectives, on est ici en présence d'une métaphore de l'écriture elle-même. Et, voyez, un peu plus loin, dans la description du spectre, alors, au début, Hugo est là, il est sur le régime des deux infinis pascaliens. Derrière cette vision, il dit, il y avait on ne sait quelle occlusion sinistre. L'illimité, borné par rien, ni par un arbre, ni par un toit, ni par un passant, était autour de ce mort. Quand l'immanence, surplombant sur nous, ciel, gouffre, vie, tombeau, éternité, apparaît patente, c'est alors que nous sentons tout inaccessible, tout défendu, tout muré. Quand l'infini s'ouvre, pas de fermeture plus formidable. Donc, épreuve de l'infini dans le fini. Dans le fini de l'existence, dans ce monde qui n'est que lui-même, injection d'infinité sous la présence de ce cadavre dont le regard caverneux comporte et contient lui-même l'infini dont l'homme qui rit est le témoin, l'unique témoin, le seul témoin, comme s'il se voyait lui-même dans un miroir.
C'était un bruit d'ailes. Un incident survenait. L'orageux incident des cimetières et des solitudes. L'arrivée d'une troupe de corbeaux. Des taches noires, volantes, piquèrent le nuage, percèrent la brume, grossirent, approchèrent, s'amalgamèrent, s'épaissirent, se hâtant vers la colline, poussant des cris. C'était comme la venue d'une légion. Cette vermine ailée des ténèbres s'abattit sur le gibet. L'enfant, effaré, recula. Les essaims obéissent à des commandements. Les corbeaux s'étaient groupés sur la potence, pas un n'était sur le cadavre. Ils se parlaient entre eux. Le croassement est affreux. Hurler, siffler, rugir, c'est de la vie. Le croassement est une acceptation satisfaite de la putréfaction. On croit entendre le bruit que fait le silence du sépulcre en se brisant. Le croassement est une voie dans laquelle il y a de la nuit. L'enfant était glacé, plus encore par l'épouvante que par le froid. Les corbeaux se turent. Un d'eux sauta sur le squelette. Ce fut un signal. Tous se précipitèrent. Il y eut une nuée d'ailes, puis toutes les plumes se refermèrent et le pendu disparut sous un fourmillement d'ampoules noires remuant dans l'obscurité. En ce moment, le mort se secoua. Était-ce lui? Était-ce le vent? Il eut un bond effroyable. L'ouragan qui s'élevait lui venait en aide. Le fantôme entra en convulsion. C'était la rafale, déjà soufflant à plein poumon, qui s'emparait de lui et qui l'agitait dans tous les sens. Il devint horrible. Il se mit à se démener, pantin épouvantable, ayant pour ficelle la chaîne d'un gibet. Quelques parodistes de l'ombre avaient saisi son fil et jouaient de cette momie. Elle tourna et sauta, comme prête à se disloquer. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent. Ce fut comme un rejaillissement de toutes ces bêtes infâmes. Puis ils revinrent. Alors, une lutte commença.
On pourrait penser un peu à la balade des pendus de Villon, par exemple, avec ces pendus qui se balancent sur le gibet et qui ont cette danse de pantin.
Je crois même que c'est une référence objective. Il me semble que c'est effectivement... Alors, ce n'est pas la balade des pendus, là, c'est la balade du pendu. Et c'est aussi un procédé d'ailleurs assez classique en littérature. La littérature excelle à donner le sentiment de la vie après la mort. Il y a comme ça, vous savez, une nouvelle de Maupassant qui s'appelle « Auprès d'un mort ». Est-ce que vous vous souvenez de cette nouvelle, Paola ?
Celle que reprend Schopenhauer.
Oui, mais c'est celle qui raconte la mort de Schopenhauer.
Ah, oui.
Qui raconte la veille du cadavre de Schopenhauer. Bon, Schopenhauer n'était pas tout à fait partisan de la vie après la mort. Encore que, je pense, il aurait peut-être souscrit davantage à la version surnaturelle d'une résurrection d'un corps. C'est-à-dire, je pense que Schopenhauer aurait davantage adhéré à l'hypothèse d'un mort vivant qu'à l'hypothèse d'un paradis post-mortem. Mais alors, deux personnes qui veillent le corps de Schopenhauer, puis qui sortent un moment parce que ça pue un cadavre, donc ils s'éloignent du cadavre, et ils entendent un bruit dans la pièce. Et ils retournent dans la pièce, ils sont terrifiés, et le mort est mort depuis suffisamment longtemps pour que le corps lui-même ne fasse plus de ces bruits que le corps continue à faire quand on est mort, que les cadavres, les nouveaux cadavres, les cadavres encore tièdes font avec leur corps. Le mort est bien mort et le bruit en réalité vient du dentier qui, sous l'effet de la sécheresse des composants de la bouche, le dentier a sauté et est tombé par terre. Et tout dans ce texte est fait pour donner le sentiment d'une presque surnaturelle, d'une vie qui continue au-delà de la mort. Hugo reproduit exactement le même système ici, en montrant comment sous l'effet du vent le gibet s'agite et comment par ailleurs le vent se met à souffler comme par hasard au moment où les corbeaux s'acharnent sur le gibet pour dévorer les quelques morceaux de chair qui y demeurent. Et s'ensuit donc ce combat singulier du mort contre ceux qui veulent le dévorer, du mort contre les charognards. Et en fait, je me demande si la littérature n'est pas autre chose que la lutte d'un mort contre des charognards. C'est-à-dire que la façon qu'un mort a de rester vivant, malgré ceux qui s'en prennent à sa dépouille. Et il y a plusieurs façons de s'en prendre à la dépouille d'un mort. La première peut être de dire du mal du mort, d'enfermer le mort dans une définition peu flatteuse de lui-même, à la façon dont, dit Sartre, on entre dans un mort comme dans un moulin. La seconde peut être de réifier, de chosifier le mort sous une postérité qui est en fait une sorte d'enterrement de première classe, de lui faire un cercueil de marbre. La littérature conjure au fond ces deux tentatives en rétablissant contre ceux qui daubent à l'intention du mort bien la réalité complexe d'une existence, et contre ceux qui voudraient lui faire un tombeau de gloire, la douloureuse incarnation de la vie qui fut la sienne avec les faiblesses qui fut la sienne. Bref, la littérature comme une école de réalité est également ce qui, à ce titre, maintient la vie au-delà de la mort. Les oiseaux, ces taches noires sur ce ciel blanc, sont à s'y méprendre des taches d'encre qui viennent se déposer sur le texte d'un mort dont il faudrait raconter l'histoire, dont on ne peut pas raconter l'histoire, il n'a pas d'identité. Tout ce que Hugo peut en dire, c'est de le décrire à la façon d'un mort vivant. Je veux dire, Romero n'a qu'à se rhabiller. Walking Dead, c'est peu de choses. La description de la potence du gibet et de ce que Hugo va jusqu'à appeler un spectre est autrement plus terrifiante puisqu'elle n'a recours à aucun des éléments du surnaturel. L'écriture suffit à susciter l'effroi, l'émotion indéfinie du lecteur.
Le mort sembla pris d'une vie monstrueuse. Les souffles le soulevaient comme s'ils allaient l'emporter. On eût dit qu'il se débattait et qu'il faisait effort pour s'évader. Son carcan le retenait. Les oiseaux répercutaient tous ses mouvements, reculant puis se ruant, effarouchés et acharnés. D'un côté, une étrange fuite essayée, de l'autre, la poursuite d'un enchaîné. Le mort, poussé par tous les spasmes de la bise, avait des soubresauts, des chocs, des accès de colère, allait, venait, montait, tombait, refoulant les seins éparpillés. La féroce volée assaillante ne lâchait pas prise et s'opiniâtrait. Le mort, comme saisi de folie sous cette meute de bec, multipliait dans le vide ses frappements aveugles, semblables aux coups d'une pierre liée à une fronde. Coup d'ongle, coup de bec, croassement, arrachement de lambeaux qui n'étaient plus de la chair, craquement de la potence, froissement du squelette, cliquetis des ferrailles, cris de la rafale, tumulte. Pas de lutte plus lugubre. Une lémure contre des démons, sorte de combat spectre.
Cinématographique peut-être un peu évidente, mais on pense aux oiseaux d'Hitchcock.
C'est certain. On y pense même un peu plus haut, parce que c'est au moment où les oiseaux donnent le signal, au fond.
Oui, qu'on pense aux...
Les oiseaux d'Hitchcock, ce qui rappelle le film d'Hitchcock, pourquoi le film d'Hitchcock fait-il tellement peur, hormis qu'il n'ait aucune raison au fait que les oiseaux attaquent, ou en tout cas que la cause qu'on présente au spectateur est une cause infime, genre la mise en cage de deux inséparables. La raison pour laquelle ce film est tellement effrayant ne tient pas tant au moment où les oiseaux fondent sur les individus qu'au moment où les oiseaux attendent. Qu'au moment où, quand on arrive par exemple devant l'école, on voit les oiseaux qui sont là, qui font le guet, qui attendent d'attaquer. Et ce qu'on ignore, ce qui rappelle les oiseaux, c'est le moment où les oiseaux sont sur la potence. Ce n'est pas la lutte elle-même, me semble-t-il. Parce que dans les oiseaux d'Hitchcock... Les oiseaux s'en prennent davantage aux vivants. Là, la lutte du mort contre les oiseaux, encore une fois, je crois que on est en pleine métaphore et c'est un enjeu littéraire. C'est comment échapper par la littérature qui ressuscite les morts. Comment échapper à l'enfermement dans une idée reçue. Les oiseaux pouvant signifier à la fois ce qu'il y a de mortifère dans le fait de parler d'un mort, comme l'écriture elle-même qui, par ses taches noires déposées sur la page blanche ou le ciel blanc, ressuscite le mort en lui donnant l'illusion du mouvement.
Métaphore littéraire qui pourrait en rappeler une autre et toujours en rapport avec Moby Dick.
Vous êtes dans la littérature comparée. Paola, allez-y, pourquoi pas.
C'est celle, l'attaque des requins, qui est là, je me souviens avoir lu quelque chose qui rapprochait ça de l'attaque des critiques qui s'emparent d'un roman et qui le dévorent et qui l'attaquent.
J'avais pas du tout prévu de parler tant de Moby Dick, mais vos comparaisons sont toutes pertinentes. Dans Moby Dick, Kekweg, le compagnon d'Ismaël, le cannibale, dont Ismaël fait son compagnon et son meilleur ami. Kekweg est un homme d'un courage insensé, c'est un harponneur d'un courage inouï. Et à un moment, il descend à l'arrière du bateau. Il a les pieds dans l'eau, en fait. Il a les pieds dans l'eau, il doit réparer quelque chose à l'arrière du bateau. Et il y a les requins qui arrivent en même temps pour venir lui manger les pieds. Et il les repousse de coups de pied nonchalants sur le nez, la gueule du requin. Et donc il les repousse, mais il les repousse comme on chasserait des mouches, comme on chasserait des moustiques. Et effectivement, la tentation est grande, et je crois même guidée en cela par Melville, de voir dans cet épisode la figure de l'écrivain qui repousse d'un air négligent les critiques attachées à désosser, en la disséquant, son œuvre. Les critiques en forme de requin. À cela s'ajoute le fait que Kekweg, dans Moby Dick, est un homme parchemin, puisqu'il est tatoué, c'est un palimpseste vivant. Il est recouvert d'inscriptions. Il est lui-même tout entier, c'est un incunable, Kekweg, c'est un vieux texte antique qu'on n'arrive plus à lire. Toute sa peau est un livre rendu illisible. Donc à cela s'ajoute le fait que c'est un homme livre. Or, il a en partage avec Gwynplaine le fait de porter sur le visage la trace de l'activité humaine, c'est-à-dire de l'écriture. Dans Moby Dick, c'est une écriture objective, mais dans L'homme qui rit, c'est un artifice, c'est un ajout, et de ce point de vue d'ailleurs c'est une réussite complète, c'est un ajout de l'artifice au bienfait de la nature.
Il me semble d'ailleurs que Victor Hugo utilise l'expression « chef-d'œuvre à reculons ».
C'est exactement ça. C'est un chef-d'œuvre à reculons. C'est exactement. Vous avez le texte sous les yeux, là, Paola ?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que ça dit ?
Alors, il dit « La nature est notre canevas. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création, parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe. Progrès en arrière. Chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe homme. »
Alors, il y a deux choses ici, très importantes. Avant de parler de cet ajout de l'artifice à la nature, cette façon qu'ont les hommes de défigurer la nature, il n'est pas juste en Lady Gwynplaine. Il a sur son visage la marque la plus mélancolique qui soit et la plus infâme qui soit, celle du rire, c'est-à-dire la marque du diable, la marque du diable aux yeux des religions. Et pas seulement d'ailleurs, la symbolique du rire est considérable dans ce livre, évidemment. Dans ce livre dont vous avez bien fait de dire qu'il était énorme, c'est-à-dire hors norme. Ce qui va avec ce qu'on disait tout à l'heure du zéro et du total. C'est-à-dire, on ne négocie pas avec l'immensité, au contraire, on s'y plonge et on s'y noie. Alors, il y a deux choses à dire hein, sur le travail qui a été fait par les hommes sur le visage de Gwynplaine. Le travail qui a été fait par les Comprachicos. Avant d'en venir à la façon dont l'homme défigure la nature, il faut, pour expliquer cela, pour le donner à entendre ou à sentir à nos auditeurs, il faut revenir sur le couple initial de ce livre, le couple de Ursus et Homo. Alors, sachez, chers auditeurs, que Ursus est le nom d'un homme et Homo est le nom du loup que l'homme a choisi pour compagnon. Un loup docile et gracieusement subalterne, qui à cet égard est agréable à la foule, car comme dit Hugo, voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Mais l'homme et le loup sont plus que compagnons, ce sont des frères. Écoutez, juste un texte qui les présente, juste pour qu'on ait en tête ce que c'est que ce couple-là.
Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'orviétan. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, ils passaient à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Quand la carriole s'arrêtait dans quelque champ de foire, quand les commères accouraient, béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme ou s'était dressé tout seul à diverses gentillesses de loup qui contribuaient à la recette. Surtout, « ne dégénère pas en homme », lui disait son ami.
Vous avez dit tout à l'heure, Raphaël, que « L'homme qui rit » était un roman très triste. C'est un roman qui aussi très drôle parfois, en tout cas dans l'écriture de Hugo, qui se prive jamais d'un humour, lui aussi énorme, même s'il est toujours subtil. Et là, dans ce texte, qui me faisait dire ça, c'était « Le loup était lettré, l'homme aussi », des phrases comme ça. Sont
mais ça va, beaucoup, ça va plus loin que ça, hein. C'est un vrai sage, le loup. Hein. C'est une sagesse du silence, mais c'est un vrai sage, le loup.
Oui, et dans le texte, il y a plusieurs mots qui montrent cette proximité du loup à l'état. Pas de l'homme, justement, j'allais dire l'inverse de ce que je voulais dire. Je voulais dire la proximité du loup vers l'homme, alors que...
En réalité, c'est l'homme qui s'élève jusqu'à l'animal.
Voilà, et qui tire la carriole avec lui.
C'est ça. C'est l'homme, Ursus, homme le plus savant de son temps, philosophe. Il dit lui-même, hein, il met à l'entrée de sa carriole, Ursus, philosophe. L'homme le plus savant de son temps. En vérité, il est médecin. Il passe sa vie à sauver des vies, justement. Il passe sa vie à sauver des vies et comme il est bougon, il dit « Je fais aux hommes tout le mal que je peux ». Il leur sauve la vie en leur administrant des remèdes qui ont mauvais goût. Et d'ailleurs, c'est lui qui va sauver la vie de Gwynplaine une fois qu'il aura récupéré la petite Déa, ce bébé qu'il portera dans les bras jusqu'à l'arrivée dans la carriole. Ursus, c'est un mauvais coucheur. C'est un bougon, c'est un pas content, c'est un furieux qui prétend détester l'humanité et c'est en réalité le premier des bienfaiteurs. C'est celui que tout son savoir conduit au sentiment que seuls quelques humains, quelques rares élus sont susceptibles de s'élever à la hauteur de l'animal. D'où cette phrase, surtout ne dégénère pas en homme. Vous savez, au fond, la supériorité d'Homo sur Ursus vient du fait que tout le savoir, toute la connaissance d'Ursus vient du fait qu'il est précisément philosophe. C'est-à-dire que Ursus étant philosophe, au fond, Ursus, qui s'est lui-même donné un nom d'animal, s'est donné le nom d'un animal pour conjurer en lui cette tendance trop humaine qui veut qu'un homme se sachant mortel ne peut pas ne pas contempler le ciel étoilé. C'est Schopenhauer qui dit ça. Excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence. C'est pour tous une chose si naturelle qu'il ne la remarque même pas. La sagesse de la nature parle encore par le calme regard de l'animal, car chez lui, l'intellect et la volonté ne divergent pas encore assez pour qu'à leur rencontre, ils soient l'un à l'autre un sujet d'étonnement. Ici, le phénomène tout entier est encore étroitement uni comme la branche au tronc à la nature d'où il sort. Il participe sans le savoir plus qu'elle-même à l'omniscience de la mère universelle. En d'autres termes, l'animal a ceci de supérieur à l'homme que, ne s'interrogeant pas ou ne redoutant pas de mourir, il ne questionne pas le sens de sa présence sur terre, il ne lève pas les yeux au ciel, et donc il ne souffre pas de cette malédiction proprement humaine qui est le besoin métaphysique, qui forme les philosophes d'ailleurs, qui a donné le jour à la philosophie. Ursus est celui qui, souffrant de ce besoin métaphysique parce que c'est un humain, essaie de compenser cette souffrance par un surcroît de culture dont Homo, c'est-à-dire le loup, n'a pas besoin, n'a aucun besoin. On peut apprendre autant de choses qu'on veut, on sera éloigné de la sérénité de l'animal, autant que l'acquisition d'un savoir nous sépare d'une vérité absolue.
Il faut qu'on en vienne, Raphaël, au Compraticos, il faut qu'on donne à entendre ce texte. Je parle du texte où Victor Hugo explique le talent, entre guillemets, des Compraticos, de ces acheteurs d'enfants, parce que...
Les achète petits, les achète Compraticos, petits, oui. Qu'on appelle aussi Compra Pequeños.
Étrange ce nom en espagnol, il faudra y revenir.
Les Comprachicos, pardon, faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres. Pourquoi des monstres? Pour rire. Le peuple a besoin de rire, les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser.
Oui, voilà, et je voulais justement faire intervenir ce texte à ce moment-là, après le texte qu'on a entendu sur Ursus et Homo, parce que ça permet de mettre en miroir et de montrer à quel point ce que font les Comprachicos est l'inverse de ce que fait Ursus sur Homo, puisqu'ils se veulent maîtres et possesseurs de la nature, et ils tyrannisent la nature.
Ils tyrannisent la nature qu'ils veulent maîtriser. C'est l'une des mélancolies de ce livre. C'est l'une des mélancolies essentielles de ce livre. C'est un livre qui questionne l'art humain, l'art proprement humain, ou plutôt la très haute idée que l'art humain se fait de lui-même. Le sentiment propre à ce 19e siècle imbécile qu'on va pouvoir, par la technique, par l'intelligence, par la maîtrise des éléments naturels, embellir la nature, voire améliorer l'humain. Or, à quoi sert l'artifice ici? À quoi sert le talent humain? À rendre hideux un enfant qui ne l'était pas, à défigurer littéralement la nature pour assigner au plus innocent des représentants de l'humanité la fonction pathétique de bouffon.
Les comprachicos avaient un talent défiguré qui les recommandait à la politique. Défigurer vaut mieux que tuer. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut pas peupler l'Europe de masques de fer, tandis que les battleurs difformes courent les rues sans invraisemblance. Et puis, le masque de fer est arrachable. Le masque de chair ne l'est pas. Vous masquez à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Les comprachicos travaillaient l'homme comme les Chinois travaillent l'arbre. Ils avaient des secrets, nous l'avons dit, ils avaient des trucs. Art perdu. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. C'était ridicule et profond. Ils touchaient un petit être avec tant d'esprit que le père ne l'eût pas reconnu. Et que méconnaîtrait l'œil même de son père, dit Racine avec une faute de français. Quelquefois, il laissait la colonne dorsale droite, mais il refaisait la face. Il démarquait un enfant comme on démarque un mouchoir. Les produits destinés aux battleurs avaient les articulations disloquées d'une façon savante. On les eût dit désossés. Cela faisait des gymnastes. Non seulement les comprachicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire. Du moins, ils lui en ôtaient ce qu'il pouvait. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi? Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer, il ne se rappelait rien. Les comprachicos, pendant l'opération, assoupissait le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique et qui supprimait la douleur.
Voilà la description que fait Victor Hugo de cet art perdu. Il utilise bien le mot art que vous avez signalé avant.
Oui, et lui fait que Gwynplaine, d'ailleurs, ce qui explique que Gwynplaine est à ses yeux, aux yeux de l'art, de l'homme de l'art, une réussite complète du point de vue de l'artiste en question.
Des artistes, les comprachicos.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, il fait la différence intéressante entre le masque de fer et le masque de chair, avec ce jeu de paronomase un peu inquiétant entre fer et chair.
Oui, et cette différence est très importante parce que le masque de fer, c'est quelqu'un dont on veut cacher le visage. Donc on a recouvert son visage. C'est comme je vous disais l'autre jour, c'est le syndrome de Batman. Bruce Wayne recouvre son visage d'un masque de super-héros qui dissimule son visage comme il altère sa voix. Bon, donc du coup, il n'est pas reconnaissable. Ce que font les comprachicos, c'est qu'ils déposent, ils transforment le visage lui-même en masque. Ce qui fait de Gwynplaine, encore une fois, peut-être aura-t-on le temps d'en parler, une figure socratique. C'est-à-dire qu'il défigure littéralement celui-là. Ce qui rappelle, vous savez, l'épisode de Quasimodo au début de Notre-Dame de Paris. Oui. Puisqu'il y a le concours des fous, vous savez, le concours de l'homme le plus laid du monde. Et Quasimodo l'emporte haut la main parce que la grimace, dit Hugo, était son visage.
Oui, non, et pendant que vous parliez, j'ai eu une réminiscence cartésienne, et je ne sais même plus si elle est exacte ou pas, mais du dieu qui dépose sa signature comme un ouvrier sur son produit achevé.
Alors, c'est la signature de l'ouvrier. En fait, alors, la signature de Dieu se trouve en l'homme dans l'infinité de sa volonté, chez Descartes. C'est là, si j'ai bonne mémoire, que Dieu a laissé sa signature comme l'ouvrier laisse un petit signe de lui-même sur le produit fini ou sur son œuvre, oui.
Oui, je peut-être était-elle totalement gratuite cette réminiscence, mais cette façon de déposer, de signer leur œuvre qu'ont les comprachicos en modifiant le visage comme ça de Gwynplaine m'a fait penser à ça. Après tout, c'est peut-être totalement injustifié.
Mais... Non, ça ne l'est pas, puisque ce sont des deus ex machina, c'est-à-dire ce sont des individus dont le talent, dont l'art perdu est un art proprement créateur. Ils ont pris un phénomène naturel et ils en ont fait un phénomène artificiel. Et le recouvrement de la nature par l'artifice se fait aux dépens de la nature elle-même, c'est-à-dire introduit déjà les catégories de beauté et de laideur au sein d'un monde qui ne parle pas, donc un monde naturel, et surtout, introduisant les catégories de beauté et de laideur, le fait au profit d'une immense laideur, laquelle, du coup, devient le paravent de la beauté divine de cet individu, c'est-à-dire de la beauté de son âme, de la beauté d'une âme que seule une aveugle, c'est-à-dire Déa, est susceptible de voir, est susceptible d'entrevoir. Mais pour cette différence entre le masque de chair et le masque de fer, c'est comme s'ils avaient incarné le masque de fer. Voilà. Ça n'est pas un masque qu'on dépose, c'est un visage qu'on transforme en masque. C'est une nature qu'on artialise. C'est un visage qu'on transforme en masque, ça se fait dans ce sens-là. C'est exactement l'inverse du mouvement par lequel Ursus prétend s'élever jusqu'à la condition animale. Ici, c'est l'homme qui prend un petit enfant, qui prend un petit enfant et qui en fait littéralement un monstre. Donc, le mouvement est rigoureusement l'inverse. Or, ce qui est intéressant avec les Comprachicos, c'est que l'équipage des Comprachicos, perdu sur cette ourque qui va leur coûter la vie, ce qui est intéressant avec les Comprachicos, c'est que c'est l'humanité tout entière. Et ça, c'est un autre point commun avec Moby Dick. C'est intéressant que vous ayez parlé de Moby Dick au début de ce livre, Paola, parce que dans L'Homme guéri, je le dis à nos auditeurs, il y a 30 pages, 30, 35 pages peut-être, qui décrivent le naufrage de l'ourque, du bateau qui contient les Comprachicos, parce que la loi finalement a décidé que leurs activités étaient un petit peu illégales, que ça se faisait pas trop de torturer les enfants. Bon, on est au 19e siècle, c'est un balbutiement d'un droit qui n'en est pas encore à ses meilleures prouesses. Et donc les Comprachicos fuient, et ils sont sur l'ourque, et au terme de péripéties insensées, ils finissent par se noyer, par accepter leur sort, ils se laissent mourir à genoux. Mais l'équipage
est composite.
Exactement. C'est un équipage aussi composite que celui du Pequod. Les grands écrivains, les écrivains magnifiques, j'appelle par écrivains magnifiques ceux qui ne répugnent pas ou ceux qui n'hésitent pas à faire de leur récit une métaphore immense et gigantesque. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Céline fait partie de ces écrivains magnifiques. Les grands écrivains magnifiques excellent à décrire les équipages qui sont sur les bateaux ou bien dans les trains, comme des métaphores de l'humanité tout entière. Or, les Comprachicos, c'est Babel. Ils étaient, dit Hugo, de tous les pays. Sous ce nom, Comprachicos fraternisaient des Anglais, des Français, des Castillans, des Allemands, des Italiens, etc., etc. Il y a toute l'humanité sur ce bateau. Toute l'humanité en déroute sur ce bateau malmené par les éléments. Oui, Paola.
L'humanité chrétienne, c'est ce que spécifie Victor Hugo. Ils ont en commun d'être chrétiens, tous.
Oui, mais c'est une universalité, c'est-à-dire qu'il présente cela comme une universalité. Au fond, c'est l'universalité à laquelle il a accès. Hugo ne va pas, à l'instant même où il fabrique cette métaphore, c'est-à-dire l'image d'une humanité en déroute, ballottée par les flots, d'un monde inhumain, dont la violence ne vous demande pas vos préférences, qui n'est pas là pour vous, d'une mère qui ne sait même pas qu'elle va couler le bateau sur lequel vous tremblez. Cette rencontre des Comprachicos avec ce monde inhumain se fait comme un châtiment au terme d'une œuvre proprement humaine, c'est-à-dire d'un recouvrement de la nature par l'artifice. On est en pleine métaphore dans ce début admirable, dans le début absolument extraordinaire de ce livre. Ce que je veux dire ici, c'est que oui, c'est l'humanité chrétienne.
Je voulais dire l'humanité catholique, parce qu'il précise à plusieurs moments qu'entre les Basques et les Irlandais, ce qu'ils avaient en commun, c'était d'être catholiques, etc.
Mais catholique en grec, Paola, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire
universel,
bien sûr.
Voilà. Donc, bien sûr, c'est l'universel, c'est le catholicos, c'est l'universel en déroute, ballotté par les vents. C'est un roman, on pourrait dire, un roman camusien. Quoi de plus étonnant que la rencontre stupéfiante de cette demande de sens incarnée par cet équipage qui veut absolument jouer avec les éléments pour essayer de sauver sa peau sur une ourque qui, elle-même, est une admirable construction de l'homme, et cette mère en furie, Et ces récifs mortels qui se fichent bien de savoir qui va venir s'empaler sur leur caillou.
Et cette humanité qui laisse une bouteille à la mer avec un message.
Et cette humanité qui, évidemment, laisse une bouteille à la mer avec un message, laquelle bouteille changera le destin de Gwynplaine. Mais comme on est au début du livre et que c'est un livre, ce livre énorme, on ne pourra pas dire tellement plus, à moins de mentir, il sera difficile de parler d'autre chose que du début. Je voudrais qu'on en vienne, Paola, à quelque chose de tout à fait étonnant dans ce livre, qui concerne donc l'équipage des Comprachicos, avant la noyade ultime, avant le choix du suicide, par lequel ces monstres qui fabriquent des monstres, ces hommes qui sont monstrueux parce qu'ils fabriquent des monstres, se laissent mourir. Ces hommes, figures de l'humanité, croisent une nature qui semble parler tout en ne disant rien. C'est un langage littéralement inhumain. À l'inhumanité objective d'un homme qui défigure un enfant pour le vendre, se substitue l'inhumanité indifférente et les hurlements silencieux de la nature qui semble les punir alors qu'en réalité, elle s'en fout.
Vous pensez à Nos, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, vous une allusion camusienne. Oui, les descriptions de paysages dans Nos.
Les descriptions de paysages, c'est-à-dire le fait que Camus se mette à parler de premiers sourires du ciel tout en luttant contre toute forme d'anthropomorphisme qui voudrait évaluer le monde à l'aune des critères strictement humains. Comment Camus en vient-il à parler d'un premier sourire du ciel? Certains diront que Camus est un tempérament romantique déguisé en nihiliste ou en philosophe de l'absurde. Si c'est le cas pour Camus, alors ça l'est vraiment 3 fois, 4 fois, 1000 fois pour Victor Hugo. Écoutez ce texte.
Le rugissement de l'abîme, rien n'est comparable à cela. C'est l'immense voix bestiale du monde. Ce que nous appelons la matière, cet organisme insondable, cet amalgame d'énergies incommensurables, où parfois on distingue une quantité imperceptible d'intention qui fait frissonner, ce cosmos aveugle et nocturne, ce pan incompréhensible, a un cri, cri étrange, obstiné, prolongé, continu, qui est moins que la parole et plus que le tonnerre. Ce cri, c'est l'ouragan. Les autres voix, chants, mélodies, clameurs, verbes, sortent des nids, des couvées, des accouplements, des hyménées, des demeures. Celle-ci, trombe, sort de ce rien qui est tout. Les autres voix expriment l'âme de l'univers. Celle-ci en exprime le monstre. C'est l'informe hurlant, c'est l'inarticulé parlé par l'indéfini, chose pathétique et terrifiante. Ces rumeurs dialoguent au-dessus et au-delà de l'homme. Elles s'élèvent, s'abaissent, ondulent, déterminent des flots de bruit, font toutes sortes de surprises farouches à l'esprit. Tantôt éclatent tout près de notre oreille avec une importunité de fanfare. Tantôt ont l'enrouement rauque du lointain. Brouhaha vertigineux qui ressemble à un langage et qui est un langage en effet. C'est l'effort que fait le monde pour parler. C'est le bégaiement du prodige.
Bon, les auditeurs vont croire, Raphaël, que je me suis trompée, que j'ai cru qu'on préparait une émission sur Moby Dick. Mais peu importe.
Vous allez me rebrancher sur Melville, là ?
Voilà, j'ai vu autre chose cette fois dans le texte en écoutant Georges le lire et qui termine par « c'est le bégaiement du prodige ».
Ah oui.
Eh ben, on peut penser à Élie, le prophète, que croise Ismaël un peu avant de s'engager sur le Pequod et qui bégaye.
Oui,
j'allais bégayer moi-même en le disant.
Oui, c'est ça, qui bégaye. Alors, c'est le prophète de Nantucket. Il me semble que c'est à Nantucket que ça se passe.
Oui,
enfin,
oui.
Que c'est là qu'il le croise. Élie, c'est un mendiant. C'est un mendiant qui prédit à Ismaël et Kekweg leur propre mort en disant, voilà, tout est écrit, tout est signé, c'est comme ça. Et il leur prédit leur propre mort en bégayant. Il prédit la tragédie qui les attend dans un bégaiement. Façon pour Melville de laisser entendre que l'histoire bégaye. L'histoire bégaye, en particulier d'ailleurs quand elle a d'elle-même une lecture mythologique, c'est-à-dire prophétique. Et ici, Hugo emploie l'expression, alors après on est chez Hugo, c'est-à-dire qu'il a un tel sens, non pas de l'emphase, mais disons de l'emphase empathique. Le bégaiement du prodige. Qu'est-ce que c'est que le bégaiement du prodige? C'est l'effort que la nature fait pour parler, que le monde fait pour parler. Or, effort fatalement vain. C'est un effort aussi vain que l'effort que fait le gibet pour rester vivant. Il a besoin de la ressource du vent et des oiseaux pour se déplacer. Ici, c'est une matière qui s'agite et qui s'agite tellement qu'il faut faire un effort sur soi-même pour ne pas entendre dans ce vacarme autre chose qu'un bruit. C'est-à-dire pour ne pas être tenté d'entendre dans ce vacarme une parole. La force de Hugo, la puissance de Hugo, c'est d'être capable de donner à entendre un langage qui n'est pas un langage et qu'il présente d'emblée comme n'étant pas un langage. C'est le mutisme même de la nature qu'il donne à entendre, le mutisme inhumain de la nature. C'est l'informe hurlant, c'est l'immense voix bestiale, oxymore, voix bestiale. Voix bestiale du monde. Ces rumeurs, dit-il, dialoguent au-dessus et au-delà de l'homme. au-dessus. Pourquoi ? Alors on pourrait dire parce que c'est la voûte céleste. C'est pas la voûte céleste, c'est pas le ciel comme voûte, ni le ciel comme métaphore. C'est le vent qui passe au-dessus de la tête du gosse et dont le sifflement lui arrache les oreilles quand il ne les fait pas tomber à cause du froid. Et au-delà de l'homme, ça n'est pas l'au-delà qui nous est promis plus tard comme la langue secrète, la grande vérité du monde à laquelle on pourrait tendre au-delà de la mort. Non. Au-delà de l'homme, c'est l'immensité qui ne tient pas compte de l'homme. C'est encore une fois l'inhumanité qui parle. Et quand on parle ici de bégaiement du prodige, il ne veut pas dire que l'histoire se répète. Ce qu'Hugo veut dire ici, c'est qu'il, si on a cette lecture en littérature comparée, en traitement de l'histoire ou traitement implicite de l'histoire, paradoxalement, c'est chez celui des deux écrivains, entre Hugo et Melville, qui est le plus engagé dans les combats de son temps, dans l'histoire. C'est celui des deux écrivains qui injecte le plus de nature dans l'histoire, rappelle le plus souvent l'humanité à la nature qu'il a voulu ou cru déserter en entrant lui-même avec un optimisme coupable dans l'histoire. Hugo est celui qui injecte au fond du silence dans nos bavardages et qui fait, ça va même plus loin que ça, la genèse de nos bavardages par le silence, comme il élabore la genèse de la beauté par la hideur et inversement. Vous vous rendez compte, Paola, qu'on est au terme de l'émission et que nous n'avons littéralement rien dit. Je veux dire, on n'a pas parlé de Déa, de cette aveugle qui voit si bien parce qu'elle ne voit pas et dont les yeux renvoient la lumière dont ils ne disposent pas eux-mêmes, dont les yeux sont d'autant plus lumineux que eux-mêmes ne sont d'aucune aide, que eux-mêmes sont clos à toute lumière pour celle qui en est la détentrice. On n'a pas parlé de l'idée, ou à peine entrevue, l'idée que Gwynplaine était une figure de Socrate, et qu'il avait lui-même un goût de la transcendance et de la beauté qui était à la hauteur de sa propre hideur. On n'a même pas évoqué la rencontre entre Gwynplaine...
Pas, oui. Pas la peine d'aller plus loin, j'ai compris votre injonction à formuler, Raphaël. Nous ferons, chers auditeurs, une émission à venir, prochainement, je l'espère, sur l'homme qui rit dans...
Regardez, Paola, avant de désannoncer l'émission, regardez. Les poètes ont de tout temps appelé cela le caprice des flots, mais le caprice n'existe pas. Les choses déconcertantes que nous nommons dans la nature caprice et dans la destinée hasard sont des tronçons de lois entrevues. C'est quoi ça ? C'est Spinoza. C'est du Spinoza dans le texte. Spinoza et Nietzsche sont omniprésents dans ce texte qui pourtant donne le sentiment que la laideur a constamment la nostalgie de la beauté. C'est-à-dire dans un texte qui ouvre une perspective assez platonicienne, du genre « on est laid et c'est la raison pour laquelle on est beau », eh bien c'est un texte en vérité, si j'ose dire, écrit par la pensée de Spinoza et par la pensée de Nietzsche, toute chose qu'on n'a pas eu le temps de dire.
Merci Raphaël, merci Georges, merci à tous. Ainsi s'achève une émission qui n'avait pas pour thème le formidable Moby Dick d'Herman Melville, mais l'effroyable et splendide roman de Victor Hugo, L'homme qui rit, deux monstres qui ne s'affrontent pas, mais s'alimentent et se répondent. Encore tant de choses à dire, ou du moins à bégayer autour de ce roman, on y reviendra. En attendant, retrouvez-nous sur Internet, où vous attendent bibliographie et écoute en ligne. Et si le cœur vous en dit, rendez visite à Raphaël Antoven sur le site de France Culture, où vous trouverez bientôt les podcasts d'une série d'émissions consacrées à Victor Hugo par les nouveaux chemins de la connaissance il y a quelques années. Mais je vous renvoie aussi au nouveau chemin de la connaissance orchestré par Adèle Van Rett et que vous pouvez écouter avec excès, avec ivresse. Ça tombe bien cette semaine, il sera question de bonheur. Bonne année, chers auditeurs. Prenez de bonnes résolutions, procurez-vous un philomag, il vous le rendra bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler littérature encore avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. À 17h sur France Culture, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.